VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce 25 juin 2015.
Le deuxième vice-président du Burundi, Gervais Rufyikiri, a fui le pays et dénoncé la candidature du président Pierre Nkurunziza.
Après avoir refusé de participer au dialogue, des membres du gouvernement burundais rejoignent la table des discussions. Mais le parti au pouvoir reste inflexible sur la question électorale.
Les conseils communaux terminent leur mandat le 7 juillet. Et si on va au-delà de cette date, nous tombons dans un vide constitutionnel par rapport à ces organes-là.
Le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain-Aimé Nyamitwe.
Comparution aujourd'hui à Londres du chef du renseignement rwandais, le général Karake, visé par une enquête espagnole pour terrorisme.
Le programme de démobilisation et réinsertion en RDC manque de fonds pour avancer, déplore le chef de la MONUSCO.
Affaire Wikileaks, le Premier ministre français a appelé les États-Unis à respecter les libertés individuelles.
Mais aussi tout faire et vite pour réparer les dégâts que cela occasionne dans les relations entre pays alliés et entre les États-Unis d'Amérique et la France.
Manuel Valls devant les députés français hier au sujet de l'espionnage des présidents français.
Avant la Minute Éco et les sports, voici les infos.
Le deuxième vice-président du Burundi a fui le pays et dénoncé la candidature du président Pierre Nkurunziza. Gervais Rufyikiri a déclaré à France 24 mercredi être contre un troisième mandat qu'il juge illégal. Il a rédigé une longue lettre dans laquelle il demande au président de respecter la constitution et l'esprit des accords d'Arusha. Le conseiller en communication du président, Willy Nyamitwe, a envoyé un message sur Twitter disant « Au revoir et bon débarras » est le refrain de la chanson « Dans mon cœur ». Le deuxième vice-président serait en Belgique. Le bureau du président a dit à la Voix de l'Amérique qu'il s'était rendu en mission il y a quelques jours. Edward Rima, reporter de La Voix de l'Amérique actuellement à Bujumbura, dit que le premier vice-président Prosper Bazombanza reste dans le pays. L'élection présidentielle est prévue le 15 juillet après avoir été reportée en raison des protestations. Plus de 100 000 Burundais ont fui vers les pays voisins depuis le début de l'agitation politique.
Ce jeudi, le chef des services de renseignement rwandais doit comparaître de nouveau devant un tribunal de Londres. Il est détenu dans la capitale britannique à la demande d'un juge espagnol. Des précisions avec Michel Joseph.
Selon une source judiciaire espagnole que cite l'AFP, le mandat d'arrêt visant le général Karake avait été délivré en 2008 et maintenant, après sa capture, l'ordre de détention et de remise, traduit à l'anglais, a été transmis au Royaume-Uni. Le général Emmanuel Carenzi Karake sera informé aujourd'hui de la requête espagnole avec la possibilité de contester la validité de la procédure engagée contre lui. Âgé de 54 ans, il avait été arrêté samedi à l'aéroport Heathrow de Londres. Le général Karake fait partie de 40 personnalités rwandaises visées par une enquête espagnole sur des faits de terrorisme, une affaire liée à la mort de 9 ressortissants espagnols tués au Rwanda, apparemment pour avoir aidé des réfugiés Hutus. Hier, quelques 300 Rwandais ont manifesté devant l'ambassade américaine à Kigali pour exiger sa libération immédiate. Dans une brève déclaration aux manifestants, le haut-commissaire britannique à Kigali, William Jelling, a dit comprendre la frustration des manifestants, mais que son pays avait l'obligation légale d'interpeller le général Karake sur la base du mandat espagnol.
Au Niger, des éléments armés de Boko Haram ont attaqué un village de la région de Diffa, faisant au moins 6 morts selon des habitants. Le marché de la localité a été incendié. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
L'attaque a eu lieu dans la nuit du mardi à mercredi dans un village situé sur la frontière avec le Nigeria, pas loin de Bosso, la première localité attaquée par la secte islamiste Boko Haram sur le territoire nigérien, c'était en février dernier. Selon des sources contactées par la Voix de l'Amérique, les assaillants seraient venus du Nigeria voisin. Ils ont brûlé le marché du dit village avant de tuer 6 personnes. Aucune source officielle n'a confirmé le bilan de cette attaque qui intervient exactement une semaine après une double attaque de la même secte islamiste Boko Haram qui a fait 40 morts toujours dans la région de Diffa. Beaucoup de citoyens nigériens s'interrogent sur la recrudescence de ces attaques de la secte islamiste Boko Haram dans la région de Diffa, avec notamment l'état d'urgence décrété dans la région depuis le début de cette guerre qui continue d'endeuiller beaucoup de familles nigériennes. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En RDC, le troisième programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, lancé en 2013, piétine faute de fonds nécessaires. Le chef de la MONUSCO exhorte Kinshasa et ses partenaires internationaux à honorer leurs obligations. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Devant la presse ce mercredi, Martin Kobler a été catégorique. « Sans argent, on ne peut pas agir », a-t-il déclaré. Alors que le DDR-3 doit coûter environ 85 millions de dollars, d'après le gouvernement de la RDC, moins de 10% de ces fonds sont actuellement disponibles. Kinshasa s'était engagé à offrir 40 millions sur 4 ans, mais sa contribution pour l'exercice en cours ne dépasse pas 1,5 million de dollars. L'ONU a versé ses 6 millions pour la même période, mais tel n'a pas été le cas pour les autres partenaires, comme l'Union européenne et les États-Unis, souligne l'AFP. Selon le chef de la MONUSCO, la réticence de la communauté internationale s'expliquerait par le manque de contribution du gouvernement du président Joseph Kabila. L'AFP cite le coordonnateur congolais du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, François Mwamba, appelant la communauté internationale à libérer les fonds promis pour avancer le programme. Le DDR-3 concerne plus de 12 000 miliciens congolais.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français François Hollande a dit avoir téléphoné à son homologue américain Barack Obama pour une conversation sur les allégations selon lesquelles les États-Unis auraient espionné les trois derniers présidents français. Monsieur Obama a répété ses promesses de mettre un terme à des pratiques considérées comme inacceptables entre alliés, a souligné monsieur Hollande. Le point avec Idrissa Seydoudia.
Le président Obama avait pris des engagements similaires après les révélations spectaculaires d'Edward Snowden en 2013 sur l'ampleur du système de surveillance de la NSA américaine. La conversation Hollande-Obama fait suite à la publication mardi par Wikileaks, en partenariat avec Libération et le site Mediapart, de documents disant que l'Agence nationale de la sécurité a espionné les anciens présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy et M. Hollande lui-même. De 2006 à 2012. Elle a été l'occasion, cette conversation, selon l'Élysée, d'une mise au point sur les principes qui doivent gouverner les relations entre alliés en matière de renseignement. Auparavant, l'ambassadeur des États-Unis à Paris avait été convoqué pour explication au bureau du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. L'ambassade américaine s'est refusée à commenter. Hier, le Premier ministre Manuel Valls s'est adressé aux parlementaires français à ce sujet.
Les États-Unis doivent reconnaître non seulement le danger que de tels agissements font peser pour nos libertés, mais aussi tout faire et vite pour réparer les dégâts que cela occasionne dans les relations entre pays alliés et entre les États-Unis d'Amérique et la France.
Pour rappel, les documents transmis par Snowden avaient révélé fin 2013 que même la chancelière allemande Angela Merkel avait été ciblée.
Le président Barack Obama affirme que le gouvernement n'accusera plus les familles américaines de soutien criminel pour avoir tenté de négocier avec des ravisseurs terroristes ou de payer une rançon pour faire libérer des otages. « Nous devons faire mieux », a dit M. Obama mercredi en ordonnant des modifications de la politique américaine. Après un examen de 6 mois, il a promis que le gouvernement utilisera tous les instruments du pouvoir national pour libérer les Américains étant retenus prisonniers à l'étranger. Cela inclut une collaboration plus efficace avec les familles des otages, comme le partage de l'information avec les parents, et de travailler avec des entités privées pour localiser et secourir les captifs. Je réaffirme que le gouvernement des États-Unis ne fera pas de concessions telles que le paiement de rançon aux groupes terroristes détenant des otages américains, a dit le président, ajoutant « Et je sais que cela peut faire l'objet d'un débat public important, c'est une question difficile et émotionnelle, en particulier pour les familles », a-t-il dit.
Des négociations cruciales entre le Premier ministre grec Alexis Tsipras et les responsables européens se sont terminées à Bruxelles sans proposition pour Athènes. Des discussions avec les ministres de la zone euro se sont rapidement arrêtées mercredi, alors qu'aucune des parties n'était prête à accepter les propositions de l'autre. Le Premier ministre Tsipras avait prévu de rencontrer plus tard dans la nuit les créanciers de la Grèce, mais ces discussions se sont également terminées plus tôt que prévu, sans qu'aucune des délégations ne fasse de commentaires. Les ministres de la zone euro prévoient de se réunir encore aujourd'hui avant le sommet de l'UE.
Le gouverneur de l'Alabama, Robert Bentley, a ordonné le retrait du drapeau confédéré de l'enceinte du Parlement après le massacre dans une église de 9 Africains-Américains en Caroline du Sud la semaine dernière. Le Parlement de la Caroline du Sud va débattre du retrait du drapeau après que la gouverneure Nikki Haley ait déclaré lundi qu'il était temps de l'enlever. Le jeune homme qui aurait assassiné 9 Africains-Américains à Charleston est un suprémaciste qui a été photographié tenant le drapeau confédéré. Plusieurs géants de la distribution, y compris Sears et Walmart, ont dit qu'ils vont cesser de vendre des produits portant le drapeau confédéré qui rappelle le passé raciste des États-Unis. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco vous est présentée par Claire Morin-Gibourg.
La ville de Fès, au Maroc, va désormais s'éclairer en grande partie à l'aide de ses déchets ménagers transformés en biogaz. Dans le cadre d'un projet ayant nécessité un investissement de près de 10 millions d'euros, selon le quotidien marocain L'Économiste. Ce projet fait de Fès une ville pionnière du développement durable au Maroc et en Afrique, affirme le premier vice-maire Alal Amraoui. En Namibie, le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement des PME a invité les entreprises locales à utiliser Team Namibia pour vendre leurs produits aux consommateurs locaux. Team Namibia est une structure dont le but est de mobiliser les Namibiens pour consommer les produits et services locaux en priorité. Seule manière, a précisé le ministre, de concurrencer les produits étrangers qui inondent les marchés locaux. Le Cameroun inquiet pour son tourisme. Le ministère en charge du tourisme et des loisirs veut mettre en place en urgence de nouvelles normes de sécurité et une stratégie de la sécurité du touriste dans le pays. Une décision qui intervient alors que le Cameroun vit à ses frontières est et septentrionale. Une situation d'insécurité due respectivement aux assauts de bandes rebelles centrafricaines et de la secte islamiste nigériane Boko Haram. Selon l'agence APA, le tourisme a contribué à hauteur de 181,4 milliards de francs CFA au budget de l'État en 2013.
Merci Claire pour la Minute Éco. À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nathalie.
Football. Samuel Eto'o se dirige vers la Turquie.
Oui, l'ex-international camerounais Samuel Eto'o est sur le point de quitter la Sampdoria de Gênes pour rejoindre Antalya Spor, promu en première division turque à 34 ans. Eto'o s'apprête donc à découvrir un nouveau championnat après avoir notamment évolué au FC Barcelone, à l'Inter Milan, à Chelsea ou encore à l'AZ Makhachkala de 2011 à 2013 en Russie. Il avait rejoint la Sampdoria seulement depuis l'hiver dernier.
Tableau des quarts de finale de la Coupe du monde féminine de football au Canada après la fin des huitièmes de finale mardi.
Oui, ce vendredi, l'Allemagne affronte la France à Montréal. La Chine joue contre les États-Unis et ce sera à Ottawa. Samedi, Australie-Japon à Edmonton et Canada-Angleterre à Vancouver.
Et en tennis, on connaît les têtes de série à Wimbledon.
Oui, le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial et tenant du titre, et l'Américaine Serena Williams, numéro 1 mondial, ont également été désignés mercredi tête de série numéro 1 du tournoi sur gazon de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem qui débute ce lundi. Chez les messieurs, le Suisse Roger Federer, finaliste en 2014, et l'Écossais Andy Murray, vainqueur 2013, seront tête de série numéro 2 et numéro 3, conformément à leur classement ATP. Chez les dames, derrière Serena Williams, quintuple lauréate du tournoi londonien, son dernier titre remonte à 2012 et qui tentera à Wimbledon de décrocher son troisième grand chelem de l'année. La tchèque Petra Kvitova, tenante du titre, est numéro 2 et la roumaine Simona Halep, numéro 3.
Merci beaucoup, Bagassi, pour les sports.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Au Burundi, alors que le parti au pouvoir a refusé mardi de participer au premier jour du dialogue politique sous l'égide de l'ONU, certains représentants du gouvernement se sont finalement installés à la table des discussions hier. Le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain-Aimé Nyamitwe, est actuellement en visite à Washington. Dans une interview, Bagassi Koura a tenté de savoir pourquoi autant de réticences de la part du CNDD-FDD.
Je ne suis pas en mesure ici de répondre aux déclarations faites par le parti. J'imagine que le parti a exprimé son point de vue, qui peut être, disons, évalué en fonction du contexte et en fonction des informations qui sont disponibles, qui étaient disponibles en tout cas au moment où la déclaration est sortie. Pour autant, je n'estime pas être capable de répondre avec compétence en lieu et place des autorités du parti.
La communauté internationale demande le report de ces élections, les élections législatives du 29 juin, et l'opposition veut leur annulation, et pourtant vous les maintenez. Comment vous expliquez cela?
Quand vous dites communauté internationale, vous parlez de qui?
On parle de l'Union européenne, on parle de l'Union africaine qui avait demandé il y a quelques jours le report de ces élections.
L'Union africaine n'a jamais demandé le report de ces élections-là. Je pense que vous avez une mauvaise
pourtant,
information.
L'Union africaine, dans un communiqué, a bien dit que la date des élections, si elles ne sont pas consensuelles, elles ne seraient pas bien pour le Burundi.
Donc, vous confondez. Il y a le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui avait énoncé une série de décisions, y compris une recommandation en tout cas, que le calendrier soit établi de manière consensuelle.
Ça, c'est la
recommandation. Mais il faut savoir aussi que le Conseil de sécurité a sorti cette recommandation le 13 juin, après que le nouveau calendrier a été fixé. Et cette fixation de ce nouveau calendrier était consécutive à une réunion que la Commission électorale avait tenue avec les partis politiques. Et donc j'imagine que le Conseil de sécurité n'a pas peut-être non plus pris en considération tous les facteurs qui étaient en présence sur le terrain. Ce qui est certain, c'est que la disposition du gouvernement était effectivement de discuter de toutes ces questions, y compris le calendrier, sans pour autant mettre en cause la vie des institutions. Comme vous savez, les conseils communaux terminent leur mandat le 7 juillet. Et si on va au-delà de cette date, nous tombons dans un vide constitutionnel par rapport à ces organes-là. Alors qu'ils sont des organes importants, qui sont les seuls habilités même à pouvoir au poste de sénateur. Or, la communauté est-africaine avait, dans sa déclaration du 31 mai, demandé qu'on repousse les élections d'un mois et demi au moins. Ça, c'était pris en considération. Mais elle bâtissait sa déclaration sur celle qu'elle avait émise le 13 mai, dans laquelle elle demandait au gouvernement de proposer les élections, mais pas au-delà des délais constitutionnels.
Alain-Aimé Nyamitwe, ministre burundais des Affaires étrangères. L'insécurité transfrontalière est au centre d'une rencontre de 3 jours à Bamako qui regroupe des parlementaires maliens, nigériens et burkinabés. Ce forum est une initiative de l'Institut national démocratique. Les députés chargés des questions de sécurité et défense vont échanger des expériences, discuter des moyens de lutte commune et de projets de loi sécuritaire. Le point avec notre correspondant, Kassim Traoré, à Bamako.
Cet atelier de 3 jours a pour but d'offrir aux députés maliens, nigériens et burkinabés un cadre afin qu'ils mutualisent leurs efforts, d'échanger leurs expériences pour contrer l'insécurité transfrontalière. Christopher Fulman, de NDI.
Vous savez, depuis 2012, avec l'insécurité qui a commencé au nord Mali, certains pays de la sous-région ont été impactés, notamment le Niger et le Burkina Faso. Donc au moment où ces pays sont en train de se battre pour restaurer la sécurité, il est important aussi que les députés qui sont appelés à voter les lois, à exercer un contrôle sur l'action gouvernementale, soient aussi impliqués dans ce processus.
La députée de Tombouctou qui participe à cette rencontre pense qu'il faut une synergie d'action sous-régionale pour venir à bout de l'insécurité dans le Sahel. Honorable Maïga Aziza Mint Mohamed.
Eh bien, c'est tout le Sahel aujourd'hui qui est en danger. Le Sahel est infesté par la prolifération des armes, infesté par le trafic de drogue, infesté par le trafic des personnes et des biens. Et voilà pourquoi nous nous sommes aujourd'hui retrouvés ensemble, le Niger, le Burkina, le Mali, pour échanger, trouver des solutions adéquates pour lutter contre ce banditisme. Coordonner la sécurité et la paix et après engager des actions de développement.
C'est pourquoi pendant les 3 jours de travaux, il sera question de la réforme de sécurité entre les pays participants. Amadou Thiam, deuxième vice-président du Parlement malien.
La réforme sécuritaire dépasse un seul État. Et c'est pour cela aujourd'hui nous avons eu avec nous les honorables députés venus des différentes commissions de défense du Niger, du Burkina Faso. Il y a bien sûr une solution nationale. Cette solution nationale ne saurait être une solution définitive tant qu'elle ne soit mise en relation, en harmonie avec le dispositif régional ou sous-régional.
Les thématiques de cet atelier vont au-delà des relations interparlementaires des commissions sécurité et défense des pays participants.
Il faut qu'ils maîtrisent les relations civiles ou militaires, les relations qui doivent exister entre les militaires et l'administration civile. Il faut qu'il maîtrise la gestion du budget alloué aux services de sécurité. Il faut aussi qu'il soit à l'écoute des populations par rapport aux défis d'insécurité que rencontrent ces populations et qu'il puisse, en tant que député, traduire cela dans une politique globale de sécurisation des populations et des biens.
Cette rencontre sur la sécurité transfrontalière est une initiative du National Democratic Institute, NDI, qui travaille dans la bonne gouvernance et la transparence des élections. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En République démocratique du Congo, de nombreux enseignants n'ont pas reçu leur salaire depuis des mois, tandis que certains n'en ont carrément jamais eu. Dans certaines régions reculées, l'ONG Caritas est chargée de verser les salaires des enseignants pour pallier à l'absence de banques. L'organisation catholique est ainsi mise à l'index par des politiciens et des enseignants. Voici une enquête de Nick Long dans le Nord Kivu, relatée par Jean-Roger Bion.
Lors de la dernière session du Parlement congolais qui a pris fin le 15 juin, le député d'opposition Fabien Moutombe a demandé en urgence une enquête parlementaire dans ce qu'il a qualifié de zone d'ombre autour des salaires des fonctionnaires. Le parlementaire s'en est pris à l'organisation catholique Caritas qui collecte et distribue les salaires des enseignants des écoles publiques dans certaines parties du pays où les banques ne sont pas représentées. Moutombe a recommandé notamment le transfert de cette responsabilité au gouvernement local. Un porte-parole du syndicat des enseignants à Goma, Jean-Luc Ndaïtse, fulmine sur les performances de Caritas.
Nous avons des propositions où Caritas améliore ses services jusqu'à ce que chaque enseignant soit payé au temps convenable, où Caritas doit résilier les contrats avec le gouvernement et permettre au gouvernement de relancer des banques au niveau où chaque axe de paie se retrouverait.
Dans les territoires de Rutshuru et de Lubero, les enseignants ne sont pas payés depuis décembre et janvier, car le véhicule de Caritas a été braqué par des bandits. L'abbé Arsène Masubunko, porte-parole de Caritas à Goma, estime que les retards ne dépendent pas de son organisation. Le père Masubunko dénonce des problèmes de logistique et l'insécurité sur des trajets à longue distance.
Alors les arriérés s'expliquent facilement. L'argent peut traîner à Kinshasa, entre le gouvernement et la conférence épiscopale, c'est-à-dire avec la Caritas Congo, parce que parfois il y a des problèmes dans l'administration. Alors Walikale, c'est tout un problème, parce que je vous dis, il n'y a que ces deux voies. On a compté sur les avions de la MONUSCO, ils nous ont refusé. On a compté sur les avions commerciaux avec des risques, parce que vous atterrissez à 25 km de Walikale. Mais aujourd'hui, on refuse et il n'y en a plus. Il n'y en a pas beaucoup.
Si la majorité des enseignants est payée en retard, il en existe qui ne sont pas payés du tout en RDC. Le département de l'éducation à Goma situe à 45% les effectifs non rémunérés. De nouvelles écoles viennent d'ouvrir leurs portes et leurs personnels n'ont pas encore été pris en compte dans la masse salariale du gouvernement. Ruth Abimana, enseignante de longue date, fatiguée d'attendre un salaire hypothétique, a dû rendre le tablier.
On nous promettait chaque fois que nous serons payés, une année vient, on nous dit dans l'année prochaine vous serez payés, l'année se passe comme ça.
Les enseignants scrutent l'horizon dans l'attente de jours meilleurs en République démocratique du Congo.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Le gouvernement de transition au Burkina Faso doit concentrer tous ses efforts sur les élections présidentielles et législatives du 11 octobre prochain, estime International Crisis Group dans un nouveau rapport. L'ONG s'inquiète du fait que, dans un contexte marqué par des tensions politiques et sociales, des représentants de l'ancien pouvoir soient exclus des prochains scrutins, ce qui ouvre la porte à d'interminables disputes juridiques et menace le respect du calendrier électoral, souligne le groupe de réflexion. Camille Gros-Didier, adjoint à Dakar, Cynthia Ohayon, analyste pour l'Afrique de l'Ouest à International Crisis Group.
Il y a un nouveau code électoral en fait qui a été voté en avril et ce code prévoit que sont exclus des prochaines élections tous ceux qui ont soutenu la révision constitutionnelle qui visait à autoriser le président Blaise Compaoré à briguer un autre mandat. Donc ce code électoral, même s'il est un peu flou, est très ambigu et qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la façon dont il va être appliqué, il vise à exclure en fait les anciens soutiens du président Compaoré, donc la classe politique dirigeante sous l'ancien régime. Et donc ce qui est dangereux un petit peu, c'est de les exclure, de ne pas leur permettre de s'exprimer dans les urnes et ça risquerait de les pousser vers des stratégies extra-électorales de contestation, voire de déstabilisation ou de sabotage du processus électoral. C'est une menace qui pèse de manière incertaine, mais qui pèse sur les élections.
Dans votre rapport, vous notez que le gouvernement burkinabé de transition est pris au piège de ses propres errements.
Effectivement, en fait, le gouvernement, quand il a été mis en place, ça s'est fait dans un contexte un petit peu d'euphorie post-révolutionnaire où on ne pensait pas que la chute de Compaoré était possible. Donc, il y a eu énormément d'attentes populaires qui se sont accumulées autour de la mise en place de ce gouvernement. Et le gouvernement a fait énormément de promesses, donc notamment le premier ministre Isaac Sida, qui est issu de la garde présidentielle de Compaoré, a fait beaucoup de promesses. Il a par exemple promis justement qu'il allait dissoudre cette garde présidentielle, qu'on appelle le RSP, le Régiment de Sécurité Présidentielle. Et on a vu assez rapidement, début février, il y a eu une sorte de mini-crise politique. On a vu qu'il n'avait pas du tout la marge de manœuvre qu'il pensait avoir ou du moins qu'il disait qu'il avait. Il a été d'ailleurs assez rapidement obligé de reculer. Il a récemment dit que le RSP ne serait pas dissous, etc. Il y a aussi beaucoup d'attentes au niveau économique, social, des demandes de justice pour tous les crimes qui ont été commis. Le gouvernement a fait beaucoup de promesses et il est évidemment incapable de tenir toutes ces promesses. On est dans un contexte de crise budgétaire.
Justement, quelles sont certaines des recommandations donc du rapport de l'International Crisis Group?
Il y a deux, trois éléments peut-être qui seraient importants de souligner. En fait, le risque principal de ce code électoral dont j'ai parlé au début est qu'il est assez flou et qu'on laisse en fait une grande marge d'interprétation au Conseil constitutionnel. Ce que le gouvernement pourrait faire pour le préciser serait par exemple de publier un décret pour préciser quels seront les critères qui seront utilisés pour déterminer qui a soutenu ou pas la révision constitutionnelle. Ce qu'on espère, c'est que le code électoral sera appliqué de manière suffisamment restreinte pour ne pas exclure trop de monde. Et donc, il y aura une sorte de modération à ce niveau-là. Autre chose aussi qu'on recommande aux acteurs politiques et de la société civile burkinabé serait de considérer d'ouvrir un dialogue politique le plus formel possible.
Cynthia Ohayon est analyste pour l'Afrique de l'Ouest à International Crisis Group.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, la tuerie de Charleston qui ravive aux États-Unis nombre de débats. La question raciale a-t-elle évolué depuis l'arrivée du président Obama? Est-il temps de prohiber le drapeau confédéré, symbole de l'oppression des Africains américains? et pourquoi, en dépit de la multiplication de tragédies, la loi sur les armes ne change pas. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel, au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, secondée par John Ellison. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Et bon jeudi à toutes et à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.